Je suis en compagnie de Smaïl Lacher pour votre livre « Croire à l'incroyable », un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile qui vient de paraître chez Gallimard dans cette belle collection NRF Essai. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Pouvez-vous, pour commencer, nous parler du contexte de votre livre en expliquant son sous-titre « Un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile ». Ma question est simple, que vous est-il arrivé, Smaïl Lacher?
Alors le contexte, tout d'abord, deux remarques préalables. La première, c'est que ce n'est pas un livre qui, d'une manière ou d'une autre, implicitement ou explicitement, tente de régler des comptes avec une institution. Ici, une juridiction administrative. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un livre de réflexion sur une pratique, sur une activité, sur un exercice ô combien compliqué, qui est celui de juger. Voilà, ça, c'était deux préalables qui me paraissent importants. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Il m'est arrivé beaucoup de choses, bien évidemment. La chose la plus fondamentale, c'est que j'accédais à un univers totalement méconnu. Moi, je faisais des enquêtes, j'étais sociologue, je faisais des enquêtes comme font les sociologues traditionnellement. J'ai beaucoup voyagé pour faire mes enquêtes. La Commission des recours des réfugiés avant 2004 et après la Cour nationale du droit d'asile, j'ai rencontré des gens, des juges et des requérants pour la première fois mis en face à face. Donc ça a été pour moi à la fois un univers très, très étrange, extrêmement contraignant, parce qu'en sociologie on ne juge pas, alors que en tant que juge, assesseur représentant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il faut juger et il faut juger vite. Et puis, par ailleurs, ce fut pour moi un espace d'observation absolument extraordinaire, unique en son genre. J'étais pour la première fois à l'intérieur d'une juridiction, donc d'une institution au sens large, et je pouvais voir ce que je faisais tout en essayant autant que faire se peut de prendre mes distances avec ce que je faisais. Voilà.
Et alors, c'était une expérience plutôt longue puisque vous avez été juge assesseur de 1999 à 2014, donc sur un temps de 15 ans. Et comme vous venez de le dire, un sociologue est généralement un observateur. Or, devenant assesseur à cette cour, vous disposiez d'un pouvoir de décision. Et j'imagine que cette transformation, ce passage d'un observateur à celui d'un décisionnaire, a produit un certain effet sur vous.
C'est indéniable. C'est un effet. Ce passage produit des effets majeurs, à la fois sur la pratique sociologique et sur l'art et la manière de juger en situation de contrainte. Et ce n'est pas simplement objectivement une situation de contrainte. Vous êtes dans l'obligation de statuer. Alors qu'en sociologie, vous ne statuez jamais. Collectez des matériaux, vous essayez de les traiter aussi pertinemment que possible. Vous n'êtes jamais seul pour les collecter, pour les traiter, pour les interpréter, puisque vous travaillez en général dans un laboratoire, alors que là, c'est la Cour nationale du droit d'asile, vous devez juger de la crédibilité d'un récit et vous devez vous prononcer sur la nécessité ou non d'octroyer une protection internationale. Quand vous êtes sociologue, vous n'avez personne à protéger et personne ne vous demande de protéger quiconque. Alors que à la Cour nationale du droit d'asile, anciennement Commission des recours des réfugiés, vous êtes dans l'obligation d'évaluer, de juger, d'examiner et de prendre une décision en fonction des critères qui sont ceux de la Convention de Genève, du droit d'asile interne, de la qualité de l'audition, de la crédibilité du récit, etc. Donc c'est vraiment des univers extrêmement différents. Et enfin, ce sont des univers très 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 différents, différemment contraints, avec des temporalités propres, avec des échanges tout à fait spécifiques. Et la Cour nationale du droit d'asile m'a obligé à mobiliser la sociologie, c'est-à-dire en fait, en réalité, mobiliser mes connaissances, mon savoir sociologique sur des populations qui m'étaient relativement familières. Moi, j'ai travaillé et je travaillais avant d'intégrer la commission des recours des réfugiés, je travaillais sur les mouvements migratoires internationaux et sur l'immigration. Or, à la CNDA, les personnes qui venaient devant nous, qui venaient devant cette juridiction, eh bien, n'étaient pas si éloignées des populations que j'étudiais auparavant. Et j'avais fait mon enquête sur Sangatte. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, mais qui affirmaient, et il n'y avait pas de raison de ne pas les croire, qui affirmaient qu'ils étaient passés par Sangatte au moment où je menais mon enquête. Donc, au fond, j'ai appris à faire autre chose, à prendre d'autres responsabilités, à voir différemment les choses et certaines populations en situation de contrainte. J'insiste sur la situation de contrainte parce que ce sont des temporalités très courtes, les enjeux sont extrêmement importants, vous n'êtes pas seul à décider, il y a trois juges, le moment du délibéré est un moment d'échange parfois tendu entre les uns et les autres. Donc, en réalité, j'ai appris d'autres choses, j'ai appris à faire autrement et j'ai eu accès à d'autres aspects ou à d'autres dimensions des populations que j'étudiais traditionnellement en sociologie.
Alors revenons à cette enquête que vous avez eue au nord de la France. Vous en relatez quelques bribes à la fin de votre ouvrage, Semaine la chaire. Vous relatez donc cette enquête, notamment sur plusieurs dizaines d'entretiens avec des jeunes femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience troublante lorsque l'on recherche un récit qui se rapprocherait d'une forme de vérité? Parce que lorsque vous relatez ce qui vous est arrivé dans cette enquête, c'est que c'était des récits stéréotypés qui arrivaient sans cesse, et c'était souvent le même récit, que c'était difficile justement de faire changer de récit les personnes que vous interviewez dans le cadre d'une enquête, là, sociologique.
Oui, alors, il y a eu deux moments. En fait, on pourrait dire qu'il y a trois moments. Sur cette question précise des femmes qui sollicitent ou qui ne sollicitent pas d'ailleurs l'asile, mais qui ont sans aucun doute, pour la quasi-totalité, subi des violences au cours du parcours clandestin. D'abord, il y a eu cette enquête dans le nord de la France avec un certain nombre de femmes venant de la Corne de l'Afrique. Puis il y a eu une autre enquête importante, financée, elle, par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur les violences faites aux femmes pendant le parcours. Et puis, la troisième expérience, qui est une expérience très importante, c'est à la Cour, où là j'ai vu devant moi des femmes qui sollicitaient l'asile. Parfois seul, mais le plus souvent accompagné. Et j'ai remarqué que dans les trois cas, la protection ne pouvait pas être attribuée à ces femmes lorsqu'elles avaient été violentées pendant le parcours. Et aussi, peut-être est-ce une conséquence pratique, les femmes savaient qu'il était difficile de faire valoir ces violences et de les transformer en protection. Et aussi, elles parlaient très rarement devant les juges, mais même devant l'officier de protection, à l'OFPRA, elles parlaient très rarement de ces violences pendant le parcours. Alors, pour le nord de la France, les femmes que j'ai interviewées, effectivement, me faisaient exactement le même récit. Elles n'étaient pas dupes, je n'étais pas dupe, personne n'était dupe. Elles ne pouvaient pas faire autre chose que réciter un récit appris par cœur. Pour l'enquête que j'ai menée pour le compte du HCR, là, c'était un peu plus. C'était quelque peu différent parce que là, elle parlait des violences, mais aussi parce que je les faisais parler des violences qu'elle subissait pendant le parcours. À la Cour nationale du droit d'asile, les femmes ne parlaient pas, soit de la violence ou des violences qu'elles avaient subies pendant le parcours. Elles ne parlaient que des violences qu'elles avaient subies chez elles, dans leur pays d'origine. Mais au fond, ce que j'ai appris avec la première enquête, et ce fut très très instructif, et c'est ce que j'ai appris lors de cette première enquête, que j'ai pu mobiliser un certain nombre de savoirs pratiques lorsque j'étais juge assesseur à la CNDA, c'est qu'au fond, c'est pas tant la question de la vérité qui doit primer, c'est la question du vraisemblable. Mais aussi, quand il y a un récit sur soi, il y a des apparences qui ne trompent pas. Par exemple, la conviction avec laquelle on décrit ces persécutions ou les violences qu'on a subies. Bref, cette enquête, avec ces récits ultra stéréotypés, m'ont fait réfléchir sur ce que c'est que témoigner en situation de contrainte, sur ce que c'est que raconter des choses sur soi, ce qui n'est nullement un phénomène naturel, et en tout cas c'est une qualité ou une ressource très très inégalement distribuée selon les systèmes culturels, selon les personnes, le témoignage, bien sûr, mais aussi, est-ce qu'il faut s'évertuer hypothétiquement à rechercher la vérité, alors que nous sommes à des milliers de kilomètres du drame, nous sommes il y a un moment, il y a un moment que ces drames se sont déroulés, parfois plusieurs mois. Nous n'avons quasiment aucun document sur les lieux où se sont déroulés ces drames, etc. Voilà. Donc, la première enquête, avec ces discours stéréotypés, très stéréotypés, en fond, m'ont fait réfléchir sur la question du témoignage et sur la question de la vérité.
Vous écrivez, la vérité fut envisagée dans une perspective pragmatiste, à savoir une croyance qui se révèle pour chacun satisfaisante, qui se révèle satisfaisante à la fin de la recherche, c'est-à-dire pour toutes les, pour les différentes parties. Si bien que ce concept de vérité est fortement amoindri, il est réduit à peu, parce que l'enjeu principal, c'est de construire et de présenter un récit crédible. Pour ces personnes-là, c'est ça l'enjeu, c'est ça aussi pour vous l'enjeu en tant qu'assesseur, mais aussi en tant que sociologue, c'est-à-dire comment recevoir un récit qui puisse être crédible, et déjà le récit de ce qui s'est passé dans le pays d'origine, sans forcément prendre en compte le récit du voyage. Donc, comment prendre en compte et comment recevoir un récit de ce qui s'est passé dans le pays d'origine, alors même que l'épreuve du voyage, qui est terrible, transforme aussi la personne.
Oui, là, il y a trois points importants. Le premier point, c'est que les juges qui ont à prendre une décision importante, grave, en matière de protection internationale, ne sont pas totalement désarmés. Ils ne sont pas sans savoir. Ils ne sont pas sans savoir théorique, ils ne sont pas sans savoir géopolitique, et ils ne sont pas sans savoir pratique. J'entends par savoir pratique la possibilité pour des juges, pour les uns ou pour les autres, d'avoir été dans les pays des requérants et parfois d'y avoir exercé des activités, soit diplomatiques, soit des activités humanitaires. Les juges ne sont pas désarmés car ils ont en leur possession, on leur met à disposition un certain nombre de documents, un certain nombre d'informations, un certain nombre de rapports, extrêmement importants. Vous avez des rapports établis par les Suisses, des rapports établis par les Canadiens, par le fameux département d'État américain qui annuellement fait un bilan de l'état des droits de l'homme dans le monde. Vous avez les Anglais, et en particulier le Home Office, qui fait des rapports tout à fait précis, circonstanciés, etc. Et puis, vous avez les ONG qui enquêtent sur le terrain, qui sont sur le terrain, qui sont familiers d'un certain nombre de terrains. Et ce n'est pas simplement des ONG extérieures, c'est aussi des ONG de l'intérieur. Je pense, par exemple, aux sections d'Amnesty International à l'intérieur des pays des requérants. Et puis, la Cour nationale du droit d'asile s'est quand même étoffée d'un certain nombre de structures, d'un certain nombre d'activités dans la perspective ultime de toujours en savoir plus sur le pays d'origine du requérant et sur une multitude d'atteintes aux droits de l'homme. Par exemple, il y a un service géopolitique, un département géopolitique, si je puis dire, à la CNDA, qui est très important. Et la géopolitique n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas un espèce de supplément d'âme. La géopolitique contribue au droit d'asile et donc contribue à se faire une intime conviction et à comprendre les enjeux qui sont au fondement du récit du requérant. Et puis il y a les missions complémentaires entre l'OFPRA et la CNDA dans les pays d'origine des requérants. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que les juges soient totalement désarmés et qu'au fond, leur jugement est pifométrique. Voilà. Et puis, je voudrais aussi noter que les juges peuvent beaucoup apprendre des requérants. Car les récits des requérants, quand on les pense crédibles, sont une mine d'informations sur les systèmes de répression, par exemple, les systèmes de torture et sur les violations des droits de l'homme. Donc les requérants, peut-être à leur insu, livrent des analyses, des faits, des informations sur leur pays d'origine, sur leur système culturel, sur leur système politique, sur leur système économique, sur l'état des conflits qui peuvent être ces informations très précieuses pour les juges. Alors après, bien évidemment, il faut se demander si le requérant dit vrai. Alors là, à mon avis, il y a trois conditions qu'il faut remplir. La première condition, c'est que s'il n'y a pas cohérence interne, il y a doute, il y a suspicion. Et l'histoire du requérant est alors mal partie. Qu'est-ce que j'entends par cohérence interne? C'est qu'il faut un minimum de variation entre ce qui a été dit la première fois et ce qui a été dit lors du recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il peut y avoir variation, mais au requérant de justifier, d'expliquer, de justifier ces variations. Il peut y avoir des variations. Ces variations ne doivent pas, ipso facto, introduire de la suspicion, introduire de la méfiance, et donc, du coup, discréditer le récit du requérant. Bon. Parce qu'il s'est peut-être, il s'est peut-être passé un certain nombre de choses entre la première fois, lors du dépôt, lors de la rencontre avec l'officier de protection, et puis la rencontre avec les trois juges. Bon, voilà. Donc, s'il y a cohérence interne, si au fond il dit à peu près la même chose du début jusqu'à la fin, si les faits sont à peu près les mêmes du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de raison d'introduire de la suspicion ou de poser des questions qui seraient des questions pièges, car il n'y a pas plus facile que de poser des questions pièges et de déstabiliser un requérant. Et puis il y a ce que j'ai appelé la cohérence externe. La cohérence externe, c'est le rapport qu'il y a entre le récit autobiographique et le contexte géopolitique. Bon, vous ne pouvez pas nous dire que vous avez participé à une manifestation qui n'a jamais eu lieu. Voilà. Vous ne pouvez pas nous dire, ou en tout cas, vous ne pouvez, puisque je n'y suis plus, vous ne pouvez pas dire au juge « Je me suis enfui d'un stade en sautant une barrière d'1,50 m, alors que tous les documents en la possession des juges disent que le mur fait, je ne sais pas, 10 mètres environ. » Bon, voilà. Donc, il y a des choses qui sont proprement irrecevable. Et alors là, oui, s'il n'y a pas de cohérence entre le récit autobiographique, entre les événements personnellement subis et le contexte social, le contexte politique, le contexte géopolitique, alors là, le doute est introduit et il y a toutes les chances que ce doute soit maléfique, c'est le contraire de bénéfique, soit maléfique pour le requérant. Mais là aussi, bien évidemment, dire des choses sur soi après avoir fait un parcours de 5000 km, pas simplement extrêmement compliqué, pas simplement extrêmement aléatoire, mais fait de violence et parfois de traumatisme, et je pense en particulier aux femmes, mais je pense aussi en particulier aux jeunes gens, aux mineurs et à toutes les personnes vulnérables. Le jour du départ et le jour d'arrivée, vous n'êtes plus le même homme, vous n'êtes plus la même femme, vous n'êtes plus le même enfant, vous n'êtes plus le même mineur. Et donc, il est absolument impossible qu'il n'y ait pas de répercussions sur la confection d'un récit sur soi. Autrement dit, il n'est pas possible que le traumatisme n'altère pas le jugement, n'altère pas le souvenir, n'altère pas l'interprétation, n'altère pas des interprétations à la fois sur son propre voyage et sur ce qui a pu se passer, sur ce qu'on a pu rencontrer. Par exemple, ne pas avoir subi de violence, mais être témoin d'une violence, c'est aussi à sa manière subir une violence. Et c'est aussi possiblement être traumatisé par le fait d'avoir été témoin d'une violence, et je pense en particulier à des viols collectifs. Voilà. Donc, là, à l'évidence, le parcours est un élément très important qui participe à la constitution, pas seulement d'un récit, mais aussi de sa crédibilité. Voilà, donc cohérence interne, cohérence externe, et bien sûr la dimension traumatique du voyage doit être impérativement prise en compte pour comprendre ce qui est dit, parce que on peut oublier, on peut se tromper d'itinéraire quand on se met a posteriori à raconter des choses qui se sont passées. On peut confondre des dates. On peut oublier, et la date est un élément important du dossier, on peut oublier une date. Et qui n'oublierait pas une date, en particulier quand elle s'est passée il y a 2 ou 3 ans? Si je vous posais une question de savoir ce que vous avez fait il y a 2 ans, en janvier 2016, vous auriez beaucoup de peine à me dire ce que vous avez fait. Bon, c'est exactement la même chose pour le requérant, avec cette dimension supplémentaire que lui ait fait un voyage de 5 000 km dans des conditions extrêmement aléatoires et le plus souvent dans des conditions de grande violence physique, matérielle ou symbolique.
C'est là où on s'approche de votre titre que je vais vous demander d'expliquer, Semaine la chaire, croire à l'incroyable. Comment faire croire à l'incroyable? Parce que il y a eu ce voyage traumatisant, long, et il y a le fait que ce qui s'est passé dans le pays d'origine, c'est aussi très très difficile de le faire comprendre à des personnes qui vivent de manière totalement différente en France. On n'est pas du tout dans le même milieu, sur le même terrain. Comment alors arriver à exprimer, à dire, et souvent c'est traduit, il y a un traducteur, puisque la personne va pouvoir le dire dans sa langue d'origine, comment réussir à exprimer ce qui, une expérience du coup violente et traumatisante qui s'est passée dans le pays d'origine et qui est le point de départ en fait. Et c'est votre titre, Croire à l'incroyable, que je vais vous demander d'expliciter.
Alors, ce titre est de moi. Le sous-titre est de mon éditeur. Croire à l'incroyable, je l'ai choisi parce que ça m'a rappelé un souvenir. Lors d'une séance à la commission des recours des réfugiés, c'est tout simplement un président qui s'était tourné vers moi et qui m'a dit, en délibéré, alors, vous y croyez à son histoire? Et croire, bien évidemment, s'oppose à ne pas croire. Et là, nous étions dans une configuration tout à fait particulière, puisque c'est quelqu'un qui venait de très très loin, d'un pays inconnu par nous. Sauf si on avait vu des reportages à la télévision, sauf si on avait lu des livres sur ce pays, sauf si on avait lu dans notre journal préféré l'état des droits de l'homme dans ce pays. Mais très concrètement, on ne connaissait pas ce pays. Et vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre le voir et ne pas voir. Et l'enjeu premier du requérant, c'est, au fond, de demander au juge de le croire sur parole. Et je dis bien de le croire sur parole, car il arrive fréquemment que le requérant n'est pas en possession des bons documents, c'est-à-dire des documents légitimes, des documents qui peuvent produire un effet bénéfique à la fois dans le cœur et dans l'esprit des juges. Donc, faire croire des choses qui peuvent paraître incroyables aux juges, tel est l'enjeu premier, fondamental, et en dernier lieu, oserais-je dire, de tout l'effort du requérant et de son avocat. Car le requérant n'a pas d'avocat lors du lors de la première instance à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il est en présence de l'officier de protection et c'est l'officier de protection qui pose les questions. Il y a un interprète, il y a depuis quelques années quelqu'un qui peut accompagner le requérant, mais qui n'a pas droit encore à la parole. En tout cas, il n'y a pas d'avocat. Le requérant rencontre pour la première fois une configuration radicalement différente. Il est avec un avocat, toujours avec un interprète, mais cette fois-ci, il a trois juges qu'il ne connaît pas, bien entendu, mais qui ne sait pas qui fait quoi, d'où vient le président, d'où vient le juge assesseur dit OFPRA, d'où vient le juge assesseur HCR. Il est dans une configuration totalement méconnue. Et bien évidemment, son histoire, et il le sait, son histoire va sans aucun doute paraître incroyable, c'est-à-dire non croyable, très très éloignée des catégories d'entendement, et même des juges, et même de l'imagination des juges. Voilà tout l'enjeu de l'avocat et du requérant. Pour dire aux trois juges, écoutez, mon histoire peut vous paraître absolument incroyable, mais pourtant, ce que je vais vous dire, ce que je vous dis là, est absolument croyable.
Et vous utilisez alors l'expression qui pourrait être un concept de preuve libre. Je vous cite. Nous sommes à la Cour nationale du droit d'asile dans un système de la preuve libre, qualifié aussi de preuve morale ou d'intime conviction. On peut comprendre ce que ça peut être l'intime conviction. Mais la preuve libre, j'ai trouvé que c'était un très beau concept.
Oui, la preuve libre est exactement comme son nom l'indique, une preuve dont le requérant a la seule responsabilité. Nous sommes dans une juridiction où il n'y a pas de coupable. Donc, nous ne sommes pas dans une juridiction où c'est à l'institution judiciaire, aux parties civiles, à apporter la preuve de la culpabilité du coupable ou du présumé coupable. D'ailleurs, le présumé coupable dit toujours, mais est-ce que vous avez une preuve contre moi? Bon. Donc, au droit, à l'institution judiciaire, aux parties civiles, aux plaignants, d'apporter la preuve de ce qu'ils avancent, pas à la Cour nationale du droit d'asile. À la Cour nationale du droit d'asile, ce n'est pas à la Cour, ce n'est pas au juge d'apporter la preuve de ce qui est dit. C'est au requérant d'apporter la preuve par tous les moyens en sa possession, d'apporter la preuve que ce qu'il dit est vrai. Et donc tous les documents sont recevables pour les juges dès lors que les juges les trouveront crédibles. Par exemple, il y a une pièce centrale dans le dossier, c'est le certificat médical. Voilà. Mais la preuve libre, c'est le droit et la possibilité pratique de mettre à la disposition du requérant la possibilité de choisir l'ensemble des pièces qui constitueront preuve à l'appui de ses arguments.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'activité de cette Cour nationale du droit d'asile en nombre de dossiers traités, en décisions prises, parce que c'est tout à fait surprenant le nombre de décisions qu'elle prend. Est-ce que vous pouvez nous historiser un petit peu cette Cour et nous donner une idée de ce qu'elle peut représenter face à la justice générale en France?
Alors, il y a deux moments importants. Il y a avant la chute du mur de Berlin et l'explosion de l'Empire soviétique. L'essentiel de la demande d'asile est constitué par deux grandes populations, une population venant d'Amérique latine et plus particulièrement du Chili, et une population venant des pays de l'Est, nommée par tout le monde à l'époque les dissidents du bloc soviétique. Être chilien militant antifasciste et être dissident soviétique ou dissident polonais ou dissident tchèque, vous aviez alors toutes les chances d'obtenir l'asile. Et l'OFPRA et la CNDA sont nés exactement en même temps, en 1952. Et dans les premières années, vous savez, les demandes d'asile étaient très, très, très peu nombreuses. Ça ne dépassait pas les 300 demandes d'asile par an, jusqu'à la fin des années 80. Et donc, cette population ne souffrait d'aucune suspicion. On allait presque les chercher. Et puis, le monde a changé. Le monde a changé après l'effondrement du mur de Berlin et l'effondrement du bloc soviétique. Et la population a changé sous toute une série de rapports politiques, économiques, biographiques. Et on a vu plutôt arriver ce que l'on appelle les gens du Sud. Beaucoup de gens issus d'Afrique, Moyen-Orient, Proche-Orient, Maghreb. Et je pense en particulier dans les années 90 aux Algériens qui sont venus très nombreux et à qui d'ailleurs on a confectionné un asile territorial. Voilà. Donc les personnes qui venaient solliciter l'asile ne ressemblaient plus du tout ni aux dissidents des pays de l'Est ni aux militants antifascistes chiliens. Et donc là, les choses ont beaucoup changé. L'appréhension de ces populations a bien évidemment changé. Un seul chiffre vous indiquera la transformation radicale en relativement peu de temps. C'est que tant que c'était des militants antifascistes chiliens et dissidents des pays de l'Est, la demande d'asile s'élevait à environ un tout petit peu plus de 80% de gens qui obtenaient l'asile. Et puis ça a complètement basculé. Et après les années 90, bien évidemment, l'octroi d'un statut a beaucoup baissé. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à, je crois, 36% OFPRA et asile. Octroyant un statut de demandeur d'asile. Alors, un chiffre très important, c'est je crois le plus important depuis 1952, c'est en 2017, il y a eu 100 000 demandes d'asile. Il est très probable, comme quasiment toujours, qu'il y aura des inégalités profondes en termes d'octroi du statut entre les nationalités. Il y a quasiment, enfin, il y a très peu de chances que les Albanais, qui constituent la première demande d'asile en France, hein, les Albanais obtiennent un statut de réfugié parce que l'Albanie est considérée comme un pays sûr. En revanche, les Syriens, par exemple, ou les Érythréens, ou les Afghans, ou les Soudanais, auront des chances importantes d'avoir le statut de réfugié. Et je pense en particulier aux Syriens qui ont obtenu quasiment à 95% le statut de réfugié. Donc on voit bien que les choses ont changé, mais aussi que les choses changent aussi bien au niveau démographique de la population qui sollicite l'asile, des nationalités qui sollicitent l'asile, et aussi du mode de fonctionnement de ces deux institutions, en fonction, et c'est très important, en fonction de la géopolitique, en fonction des conflits internationaux, mais aussi, bien entendu, des conflits internes et des guerres civiles. Vous pensez à la Tchétchénie, vous pensez au Soudan, vous pensez aux Syriens.
Donc 100 000 décisions rendues
100 000 demandes.
100 000 demandes. Et combien de décisions rendues ?
On ne le sait pas encore. On aura probablement les chiffres dans peu de temps, quand l'OFPRA et la CRR feront le bilan. Car depuis 2015, à l'évidence, l'afflux de demandeurs d'asile a été très important. Et il faut donc du temps à la fois pour les traiter, ces demandes d'asile, mais aussi pour en faire le bilan statistique.
Et alors, devant un nombre aussi considérable de demandes pour une juridiction, quelle se pose la question de la temporalité, du temps. Nous en avions parlé hors micro et c'est une question qui me semble vraiment passionnante. C'est celle de le temps différent du sociologue, du chercheur, qui peut revenir poser ses questions plusieurs fois, et la question. Et la temporalité de l'assesseur, c'est-à-dire celui qui va juger, parce que lui, par contre, il est dans un temps très très contraint.
Oui, nous sommes en présence de deux temporalités, oserais-je le dire, radicalement différentes. La temporalité du sociologue n'est pas du tout la temporalité du juge assesseur, quel qu'il soit d'ailleurs, OFPRA ou HCR. Le temps du sociologue est un temps long et il peut revenir, il peut s'arrêter, il peut rejouer la scène exactement comme les acteurs, il peut soumettre à examen collectif les entretiens qu'il a réalisés, il peut les discuter, il peut redemander à l'interviewé une nouvelle fois de reprendre la conversation. Il peut aller chercher des précisions. Autant de choses absolument impossibles à la Cour nationale du droit d'asile. La temporalité est très courte. Une audition d'un requérant peut prendre un quart d'heure. Elle peut prendre parfois plus de trois quarts d'heure, mais rarement plus. Rarement plus. Et vous ne revenez pas sur la décision. Vous ne pouvez pas vous étendre. Et je me suis rendu compte de cette différence radicale de temporalité. Elle m'a surpris lors de la première, de la seconde et des quelques séances qui ont suivi. Elle m'a surpris, mais elle m'a aussi, je dois le dire, lors de la première séance, déstabilisé. Parce que je pensais au fond que je pouvais mobiliser quelque chose de la pratique sociologique. C'est-à-dire que je pouvais prendre du temps pour examiner les propos du requérant. Or, en fait, c'est absolument impossible. Le président s'est tourné vers moi et m'a tout simplement dit « on ne peut pas y passer la nuit. On ne peut pas discuter à l'infini d'une demande parce qu'il y en a plus de 10, je crois qu'il y en avait 13 à l'époque, ça prend du temps et donc il faut un minimum de temps pour examiner les demandes de requérants. Voilà. Et donc j'avoue que ça m'a déstabilisé, ça m'a mis dans un profond désarroi et je pense que mes jugements n'étaient pas très assurés lors des premières séances parce que j'étais victime de ce que l'on pourrait appeler un peu savamment des effets d'hystérésie, c'est-à-dire que je continuais des pratiques dans un endroit qui interdisait de continuer ce type de pratique. Au fond, j'ai cru que je pouvais encore faire quelque chose qui pouvait ressembler à de la sociologie, alors que dès que j'avais mis mon pied à la commission des recours des réfugiés, je n'étais plus un sociologue, mais j'étais un juge contraint, un juge dans une juridiction qui avait à prendre des décisions en fonction du matériel disponible et non pas d'autres matériels abstraits.
Et alors, j'imagine, entre autres par cette question de la temporalité, entre autres aussi le fait que vous étiez avant sociologue, vous l'êtes toujours, mais à un moment donné, pendant 15 ans, en étant assesseur à cette Cour nationale du droit d'asile, vous avez eu... une autre casquette, en fait, un autre métier, un autre type de relation avec les personnes qui étaient devant vous. C'est-à-dire que j'imagine que vous aviez un premier type de relation en tant que sociologue avec ces personnes-là, et puis un autre type de relation avec les mêmes personnes en tant qu'assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Et j'aimerais vous. Alors, ça ne va pas être forcément évident d'en parler, mais j'aimerais vous interroger, Semaine Lachaire, sur qu'est-ce que ça provoque en vous, puisque vous êtes aussi la même personne, que vous soyez sociologue ou assesseur, qu'est-ce que ça peut provoquer en vous comme émotion, sensation, sentiment, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, de rencontrer ce type de personnes. Parce que ce n'est pas rien. Ce sont des personnes qui ont fui leur pays d'origine, qui vont dans un autre pays dont ils ne connaissent pas la manière dont, enfin, le mode de vie, le mode politique, sociologique, et qui, pour arriver dans ce pays dit des droits de l'homme, la France, ont réalisé un parcours de milliers de kilomètres qui était long, un an, plusieurs années, semé d'embûches, où ils ont craint pour leur vie, où ils ont pu se faire violer, c'est le cas des femmes, vous relatez ces récits. C'est-à-dire un voyage absolument terrible, c'est-à-dire un voyage fait d'aventures, de périls, de drames, une sorte de voyage d'Ulysse, quoi. Moi, ça a pu me faire penser à Ulysse. Bon, sauf que Ulysse, lui, rentrait chez lui. C'est très différent. Il rentre chez lui, il y a Pénélope qui l'attend. C'est quand même sacrément différent. Ce serait un voyage inverse de celui d'Ulysse, justement, aller vers le plus complet inconnu. Pour avoir essayé de faire l'effort d'imagination, étant moi-même lecteur de fiction, je travaille avec le matériel de la fiction. Donc je me dis, comment en fiction je peux m'imaginer être à leur place de ces personnes-là? J'imagine que ça doit provoquer un désarroi psychologique absolument terrible, une sorte d'anéantissement de la personne. Mais vous qui les rencontrez, ces personnes, c'est-à-dire vous qui les avez devant vous et qui obtenez d'eux une parole, qu'est-ce que, à vous, ça a pu produire, à la fois en tant que sociologue et à la fois en tant qu'assesseur à la Cour nationale du droit d'asile?
Oui, vous imaginez bien que c'est une question extrêmement difficile. Et d'autant plus difficile qu'il s'agit de parler de soi. Chose que je ne sais pas très bien faire. Mais je vais quand même essayer de répondre aussi objectivement que possible à votre question et de vous faire croire, et de vous faire croire des choses qui peuvent vous paraître pas très croyable. D'abord, je ne pouvais pas oublier que j'étais sociologue. C'est absolument impossible. Et ce métier se rappelait à moi quasiment à chaque fois qu'un requérant était devant moi. Parce que j'ai travaillé et je continuais à travailler sur ces populations, sur leur parcours, pas travailler abstraitement, pas travailler à travers des livres, des documents, des films, des fictions, etc. Non, non, pas du tout. J'ai été au contact de ces populations, je les ai interviewées, j'ai vécu avec elles. Donc, ce sont des populations qui m'étaient familières. Donc, il était impossible pour moi de faire abstraction de mon métier. Et d'ailleurs, il était assez fréquent qu'on me le rappelle, que j'étais un sociologue. Et d'ailleurs, il m'était parfois arrivé de faire ou de produire quelques effets d'autorité. Par exemple, sur des sujets que je maîtrisais parfaitement. Et que les deux autres juges, le président et le juge assesseur OFPRA, maîtrisaient beaucoup moins ou connaissaient beaucoup moins. Et je ne faisais pas des effets d'autorité pour faire des effets d'autorité, pour faire des effets de culture légitime. Non, je contribuais, si vous me le permettez, à éclairer la décision qu'on devait prendre. Et bien évidemment, ma conviction était d'autant plus grande, d'autant plus forte, d'autant plus persuasive que je tenais à ce dossier. C'est-à-dire, dans le langage indigène, dans le langage indigène, pardon, ça voulait dire il faut que ce requérant obtienne un statut. Donc, et il y a des choses que je comprenais plus vite que les deux autres juges, tout simplement pas parce que j'étais plus intelligent que les deux autres juges, mais parce que j'avais une connaissance à la fois théorique, sociologique, pratique, des populations qui étaient devant nous. Ça, c'est le premier point. Donc, c'était impossible pour moi de faire abstraction. Et d'ailleurs, comme je viens de vous le dire, on me disait, bon, vous qui êtes sociologue, voilà. Alors parfois on se trompait, mais ça c'est pas propre au juge. Vous parfois qui êtes psychologue. Bon, non, je suis sociologue, c'est pas du tout la même chose qu'être psychologue. Alors, peut-on rester de marbre? Peut-on juger sans que la subjectivité fasse des siennes? Peut-on juger sans identification? Peut-on juger sans être soi-même touché par l'histoire biographique? Au fond, est-ce qu'il est possible de faire abstraction de l'émotion lors de l'examen en séance publique? Est-ce qu'il est possible de faire abstraction de ces émotions lors de la conversation entre les trois juges au moment du délibéré? Il est plus facile de maîtriser ces émotions lors du délibéré parce qu'il y a un jeu complexe de mécanismes de maîtrise des subjectivités, tout simplement parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes trois. Et c'est, de mon point de vue, quelque chose d'extrêmement important à préserver coûte que coûte. Mais en séance publique, quand vous avez le requérant ou la requérante, ou le très jeune requérant devant vous, il est absolument impossible de ne pas penser à des choses qui n'ont pas de lien direct avec l'audition, mais que l'audition vous renvoie d'une manière ou d'une autre. Je m'explique. Si c'est un mineur, si c'est une jeune fille qui a l'âge de ma fille au moment où son dossier est examiné, c'est impossible pour moi de ne pas penser à ma fille. Si c'est une dame d'un certain âge, seule, qui veut par exemple rejoindre ses enfants, je ne peux pas ne pas penser quelqu'un que je connais, qui peut être très très proche. Autrement dit, il y a des personnes ou des personnages qui me renvoient à des choses extrêmement familières. Autrement dit, il y a des requérants ou des requérantes qui me renvoient à des choses auxquelles je tiens, auxquelles je tiens. Et donc là, pour moi, il est impossible de faire preuve d'une neutralité absolue, de ne pas être touché par l'histoire, et donc de ne pas être enclin à une plus grande compréhension, de ne pas être enclin non pas à sauver le requérant, mais à lui permettre de pouvoir continuer à vivre dans des conditions relativement décentes. Et en général, les personnes auxquelles on s'identifie, même si on leur octroie le statut, alors que peut-être, elles ne méritaient pas statut, elle ne méritait pas le statut, Eh bien, je pense que ce n'est pas un attentat au fondement de la République. En revanche, et c'est là une très très lourde responsabilité, personnelle et collective, car elle est toujours personnelle et collective, ce n'est pas une décision personnelle, c'est toujours une décision collective à la CNDA. Lorsque le requérant a subi réellement des persécutions et qu'il craint véritablement pour sa vie en cas de retour, et que la formation de jugement a estimé qu'il ne méritait pas l'asile, alors là, oui, c'est une très très lourde responsabilité. Et d'une certaine manière, nous les juges qui incarnons la souveraineté nationale, la République, d'une certaine manière, c'est la République qui a failli.
Vous avez répondu à ma question en tant qu'assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Je voudrais vous la reposer en tant que sociologue, parce que là, vous êtes dans une autre démarche en tant que sociologue, puisque vous avez le temps, puisque vous avez cette temporalité, puisque vous pouvez revenir voir la personne que vous interviewez, que vous pouvez, comme vous avez dit, rejouer la scène. C'est-à-dire que là, vous pouvez être dans une intimité plus grande, dans une recherche aussi de vérité plus approfondie, non faite de compromis, non faite d'urgence. Vous pouvez vous débarrasser chercher en tout cas à vous débarrasser du discours et du récit stéréotypé que peut relater la personne. Et alors j'imagine que vous pouvez entrer dans une relation d'intimité d'ordre psychologique plus importante. Or, de mener sur la longueur de votre vie professionnelle ce type de travaux, c'est-à-dire que ce n'est quand même pas rien de rencontrer et de parler et de faire parler des personnes qui ont fui leur pays, qui ont eu un long trajet et qui arrivent vers l'inconnu. Ce ne sont pas des personnes comme nous pouvons l'être tous les deux, qui vivons dans un confort et qui n'avons pas vécu les mêmes moments, les mêmes actions que ces personnes-là. Elles ne sont pas dotées de pouvoirs supérieurs, mais elles ont vécu des actions que, par exemple, nous n'avons pas vécues, en tout cas, dans mon cas, je n'ai pas vécu, et j'imagine que de discuter longuement avec eux et de travailler sur cette notion de récit, de narration, doit produire de l'effet en vous, là, en tant que sociologue, en tant que chercheur.
Oui, alors, vous dans la première partie de votre question, il y a quelque chose de très, très important. Au fond, la première partie de votre question m'aide à réfléchir à quelque chose qui est important et à laquelle je n'avais pas réfléchi. C'est, et c'est très important, la question de l'intimité. Le sociologue peut, avec le temps, créer de l'intimité avec ses interviewés, avec les personnes auxquelles il s'intéresse. Et c'est très très important parce que ici se joue quelque chose de fondamental, c'est la question de la confiance. Et au fond, confiance, défi, défiance, ces mots font partie du même champ sémantique. Et avec le temps, et surtout, avec la liberté qu'a l'interviewé d'arrêter à tout moment l'entretien. Il peut dire « je ne parle plus ». Il peut dire « cette question, je n'ai pas envie d'y répondre, elle est trop intime par exemple, ça me regarde ». Voilà. L'interviewé n'est pas dépossédé de tout pouvoir sur l'intervieweur. Et l'interviewé, je parle ici de la logique sociologique, l'interviewé peut même se jouer de l'intervieweur. Et l'intimité, la confiance, quand elle s'est installé entre l'intervieweur et l'interviewé peut amener l'interviewé à vendre la mèche, c'est-à-dire à produire, en général, en dehors de l'entretien, à produire de la vérité. Voilà. Et d'ailleurs, les moments les plus intéressants dans les entretiens sont les moments de conversation informelle. Ce n'est pas les moments de conversation formelle. Voilà. Et là, moi, j'ai toujours appris beaucoup plus de choses sur les gens qui me parlaient ou sur les gens sur lesquels parlait l'intervieweur quand nous étions débarrassés de la relation formelle entre l'entretien, entre l'interviewé et l'intervieweur. Cette intimité n'existe pas, ne peut pas exister en aucun cas dans la configuration qui est celle de l'OFPRA ou de la CNDA. Ce sont des récits contraints. Ce n'est pas la confiance qui est instaurée a priori, c'est la défiance qui est instaurée a priori. Et ça, c'est un élément extrêmement, extrêmement important. Et la défiance s'accroîtra de plus en plus pour finir par être un rejet, que le récit du requérant sera plus aléatoire, moins bien ficelé, moins cohérent, dit avec peu ou pas de convictions personnelles, etc. Encore une fois, il est impossible de ne pas être touché par des récits. Qu'est-ce que ça veut dire, toucher ? Ça veut dire que le récit a été droit au cœur. Le récit a provoqué des émotions internes. Alors parfois des émotions visibles, parfois des émotions invisibles. Et des émotions visibles, il y en a eu. Il y en a. Alors, pas de ma part, mais j'ai vu des avocats pleurer. J'ai vu des requérants pleurer. J'ai vu des présidents bouleversés. Des interprètes bouleversés. Donc, l'émotion n'est absolument pas exclue de ce type de configuration. Mais, que voulez-vous ? Chacun a sa propre histoire. Et moi, ce n'est pas que je n'ai pas été bouleversé. Bien des fois, j'ai été bouleversé par des récits dramatiques. Mais pour moi, il était extrêmement important de faire semblant d'être impartial ou de me dire, même si je n'y croyais pas beaucoup, de me dire qu'il était impératif d'être aussi impartial que possible. Et pourquoi je me posais cette question ? Au fond, non. Pourquoi cette injonction ? Pourquoi cet impératif intérieur ? Parce que je me disais qu'il fallait réduire au maximum, en sachant que c'était pas possible d'effacer l'écart, qu'il fallait réduire l'inéquité entre les uns et les autres. Alors, si un récit me bouleversait, je serais plus enclin à lui octroyer le statut ou à me battre pour que ce dossier accède à un statut de réfugié. Et alors, le dossier qui ne provoquait en moi aucune émotion, est-ce que je devais le tenir à distance ? Est-ce que le doute ne devait pas profiter au requérant ? Voilà. Au fond, l'impartialité aléatoire, fragile, extrêmement vulnérable, il fallait la maîtriser en me disant qu'il était impératif d'être impartial pour être le moins inéquitable possible entre les uns et les autres. Et Dieu sait, si je puis me permettre cette expression, et Dieu sait si l'inéquité est grande entre les uns et les autres. Celui qui vient d'un CADA et celui qui a toujours dormi dehors sans aide, sans accompagnement, sans abri, n'a pas du tout, n'arrive pas du tout avec les mêmes armes devant les juges, à la CRR et à la Cour nationale du droit d'asile.
Merci beaucoup, Smaïla Cher. Merci beaucoup.
Merci.